Quel plaisir de vous revoir. Vous voyez, je reviens tout juste de vacances et puis j'oublie qu'on n'a pas le droit de se lever. Donc heureusement que notre président me faisait signe. Parce que pour moi, on a le droit de chanter « Youpi, super, on se relève ». Donc, désolée d'avoir montré le mauvais exemple. Je commence ce message par une citation de Timothée Keller, le grand théologien et pasteur dont je vous ai déjà parlé. Et je trouve ce qu'il dit très parlant. Les églises devrait davantage ressembler à la salle d'attente d'un médecin qu'à la salle d'attente pour un entretien d'embauche. Dans le second cas, nous cherchons tous à paraître aussi compétents et impressionnants que possible. Vous vous souvenez, quand vous m'avez engagé, c'était un peu le cas. Les faiblesses sont soigneusement dissimulées. En revanche, dans la salle d'attente de médecin, nous partons du principe que tout le monde est malade et a besoin d'aide. Cette image est bien plus fidèle à ce qui se passe dans l'Église. Fin de citation. Le message d'aujourd'hui est en quelque sorte la continuité de ma dernière prédication intitulée « Aller à l'Église, est-ce indispensable ?» Dieu n'est-il pas partout ? Raison pour laquelle je redonne quelques éléments fondateurs de l'Église locale. Juste après la venue du Saint-Esprit à la Pentecôte, 3000 personnes se donnent au Seigneur Jésus-Christ, se font baptiser et deviennent des disciples. C'est ainsi que débute l'Église du Nouveau Testament. L'Église des lendemains de la Pentecôte repose sur quatre piliers fondamentaux. Ceci se trouve dans Actes 2:42-43 et Actes 6:1 ajoute un cinquième pilier. Les voici. Ils persévérèrent dans l'enseignement des apôtres, c'est-à-dire la parole de Dieu, la communion fraternelle, c'est un vivre ensemble, la fraction du pain. Il s'agit d'un acte d'adoration, la prière et l'intercession, et l'action diaconale et le service. D'abord, ceux dont le besoin à l'interne, c'est-à-dire nos frères et sœurs dans la communauté, et ensuite les besoins de l'extérieur. Si vous n'avez pas entendu le message sur l'église locale, je vous invite à l'écouter. Il se trouve sur notre site internet. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la mission, la vocation de l'Église locale. L'Église constitue le corps de Christ. Elle est la résidence de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Et nous, les chrétiens, nés de nouveau, sommes ce temple. J'invite sans plus attendre David Abeguer à venir nous faire la lecture de Matthieu 28, 1 à 20.
Après le sabbat, à l'aube du dimanche, Marie de Magdala et l'autre Marie allaient voir le tombeau. Soudain, il y a eu un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre de devant l'ouverture et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Quant à vous, n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus, celui qui a été crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où le Seigneur était couché, et allez vite dire à ses disciples qu'il est ressuscité. Il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voilà, je vous l'ai dit. » Elles s'éloignèrent rapidement du tombeau, avec crainte et une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici que Jésus va à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent, s'agrippèrent à ses pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « N'ayez pas peur, Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent au chef des prêtres tout ce qui était arrivé. Après s'être réunis avec les anciens pour tenir conseil, ceux-ci donnèrent une forte somme d'argent aux soldats avec cette consigne. « Dites que les disciples sont venus de nuit voler le corps pendant que vous dormiez. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous ferons en sorte que vous n'ayez pas d'ennui. » Les soldats prirent l'argent et se conformèrent aux instructions reçues. Et ce récit des événements s'est propagé parmi les Juifs jusqu'à aujourd'hui. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur dit : « Tout pouvoir m'a été donné, dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. »
Merci beaucoup, David, pour cette magnifique lecture. Je sais que c'est toujours un défi quand on prend la parole devant, même si on doit lire, c'est quand même toujours un défi. Donc merci vraiment beaucoup d'avoir relevé ce défi. Dans sa lecture, David nous a donné le contexte dans lequel se trouve la grande mission que le ressuscité donne à ses disciples. Jésus, le ressuscité envoie ses disciples en mission. C'est Jésus qui parle. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. » La défaite à Golgotha se transforme en triomphe en Galilée. C'est sur cette transformation que se fonde la mission de l'Église jusqu'à la fin du monde. La fin de l'évangile de Matthieu se termine glorieusement. Cependant, ce n'est pas une fin, mais un commencement pour l'Église locale. Le « toutes les nations » montre la seigneurie universelle de Christ. La mission que Jésus-Christ donne aux disciples et à l'Église s'étend autant au peuple de l'Alliance, les Juifs, que les païens, donc nous aujourd'hui. Avant d'aller plus loin, j'aimerais poser un cadre vu l'historique de notre Église. Je sais d'où vous venez et ce que vous avez vécu en tant que communauté et individuellement. Dans la vie, il y a des saisons de vie. Je suis intimement persuadée que c'est la même chose à l'Église. Il y a des saisons dans chaque milieu ecclésiastique. Des saisons pour grandir, des saisons pour donner et des saisons pour recevoir. Aujourd'hui, je pense que nous sommes dans une saison de restauration. Nous avons encore besoin de prendre soin les uns des autres avant de nous focaliser vers l'extérieur. Et c'est bien. C'est tout à fait OK. C'est une saison comme une autre. Il est primordial de respecter les saisons de vie. Certains parmi nous sont prêts à aller vers l'extérieur et c'est également bien et tout à fait OK. Si vous êtes prêts, je vous encourage vivement et me mets volontiers à votre service. Pour moi, il est essentiel que vous entendiez cela. Prenons le temps de nous reconstruire. Je répète, car c'est vraiment important, prenons le temps de nous reconstruire. Dieu n'est pas pressé et nous non plus. Tout comme Jésus envoie ses disciples, il envoie aujourd'hui l'Église locale. Avant d'envoyer les disciples, Jésus leur dit littéralement, « A été donné à moi toute autorité dans le ciel et sur la terre. » Cela démontre que cette autorité, ne vient pas de lui, mais qu'elle lui a été conférée. L'Église existe pour la mission. Comment devenons-nous un disciple? En premier, il faut être baptisé et enseigné. Le baptême est un acte de repentance et d'identification à un peuple purifié. C'est un engagement envers le Dieu de Jésus-Christ. Dans le texte original, cela veut littéralement dire « dans le nom de », un engagement dans le nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela implique d'être un disciple? L'obéissance, la consécration, la reconnaissance, la communion, vivre une vie de repentance, être enseigné et enseignable. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Le terme prescrit en grec a la même racine que le mot traduit par commandement. Notre premier rôle en tant que disciple, c'est de servir Dieu. On est d'abord là pour Dieu et non pour l'Église, pour la famille, pour les enfants, les petits-enfants ou les amis. Dieu vient en premier. Si dans l'Église nous oublions cette dimension verticale, nous devenons un club. Nous sommes appelés à être des témoins, celles et lumières dans ce monde qui cherchent désespérément ce que nous avons à offrir. Faire des disciples, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Il ne suffit pas de parler de Jésus et d'amener les gens à se convertir en faisant profession de foi. Il faut ensuite apprendre à ces nouveaux convertis à écouter la parole de Dieu, à y obéir et à la mettre en pratique. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Jacques 1, 22 à 23. Le terme évangélisation est fort répandu de nos jours. Cependant, dans l'Écriture, il apparaît seulement une fois. J'ai appris aux côtés de notre très chère Rose l'importance de clarifier ce que la personne comprend et entend en utilisant le terme évangélisation. L'appel de Dieu en Jésus-Christ n'est pas une conversion intellectuelle, mais une foi basée sur un cœur transformé par l'amour de Dieu. La conversion d'une personne professante l'amène à toujours plus vouloir ressembler à Dieu, à Christ. J'entends régulièrement des gens qui me disent « À son âge, il ou elle ne changera plus. » Mes amis, cela n'est pas juste. Cela n'a aucun ancrage biblique. Oui, effectivement, c'est peut-être plus difficile. Mais nous sommes appelés à nous laisser transformer pour ressembler toujours plus à Christ. Et ce, à n'importe quel âge, qu'on ait 20 ans, 30 ans, 80, 90, 100, 120 ans, on est appelé à être transformé. Et cela se passe dans la rencontre avec Christ. Et quand on lit et médite la parole de Dieu, il y a une transformation qui s'effectue. L'Église locale nous donne un contexte pour mettre en pratique la foi et l'amour les uns envers les autres. L'Église est l'ambassadeur de la réconciliation. L'Évangile est un message qui réconcilie les hommes avec Dieu et les humains entre eux. C'est un message doté d'une puissance incommensurable. L'Évangile brise toutes sortes de barrières, que ce soit culturelles, générationnelles, sociales, et rassemble des personnes avec des affinités aux antipodes. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jean 13, 35. Un peuple uni par son centre qui est l'agneau de Dieu, de lui, par lui et pour lui. Quelle est la mission, la vocation de l'Église locale? Pour répondre en partie à cette question, je vous propose une petite vidéo. La vocation de l'Église locale est un sujet qui me travaille depuis de nombreuses années. Quelle est la vocation de celle-ci? Servir Dieu, servir les chrétiens et servir le monde. Servir Dieu. Le but de l'Église est de lui rendre un culte. Il y a une puissance et une force surnaturelle et phénoménale quand le peuple de Dieu se réunit pour louer, adorer et rendre un culte à Dieu. Éphésiens 1:11. En lui, nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés, suivant le plan de celui qui met tout en œuvre, conformément aux décisions de sa volonté, pour servir à célébrer sa gloire, nous qui avons par avance espéré dans le Messie. Servir les chrétiens, la formation. L'Église a le devoir de nourrir les chrétiens et de les amener à la maturité de foi. C'est lui que nous annonçons en avertissant et en instruisant toute personne en toute sagesse, afin de présenter à Dieu toute personne devenue adulte en Christ. Colossiens 1:28. Et servir le monde, faire des disciples, accompagner de miséricorde. Luc 6:35 à 36 nous dit: aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien attendre en retour. Votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc plein de compassion, tout comme le Père est plein de compassion. Jésus, appelé Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous, confirme cette promesse qu'il sera toujours avec nous en disant: et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Que d'espérance et de promesse nous avons en Jésus-Christ. Concrètement, qu'est-ce que tout cela veut bien vouloir dire? Comment entrer dans la mission, la vocation de l'Église locale? Nous sommes tous en mission pour Dieu, chacune et chacun de nous. Nous avons des rôles différents, mais nous sommes tous en mission pour Dieu. Nous ne sommes pas tous appelés à aller dans les rues, Bible en main, pour prêcher la bonne nouvelle. En ce qui me concerne, j'ai appris durant mon cursus avec Jeunesse en Mission à parler de Christ à des inconnus. Cela ne me pose aucun problème. Cependant, ce n'est pas la méthode que je préfère. Par contre, nous sommes tous appelés à être des témoins de Christ. Cela est simple, ne vous inquiétez pas. Notre champ missionnaire ou notre sphère d'influence se trouve être l'endroit où Dieu nous a placés. Que ce soit à notre place de travail ou en allant à la place de jeu avec nos enfants ou nos petits-enfants, ou encore dans la maison ou lorsque nous faisons nos achats. Il s'agit de nos relations avec nos amis, notre entourage et nos contacts, nos voisins, nos collègues de travail et les personnes que nous côtoyons. Être un exemple qui fait envie. Avoir une parole bienveillante pour la caissière. Donner de sa personne. Donner de son temps. Donner en générosité. Prions et demandons à Dieu de nous permettre d'être témoins et de parler de lui. Et je vous garantis qu'il le fera. Il met des gens sur notre route. L'Église est l'endroit où l'on reçoit la nourriture et ce dont nous avons besoin pour aller vers l'extérieur. L'Église nous porte mutuellement, où elle devrait. Elle nous équipe pour le service. Elle édifie le corps de Christ. L'Église locale est le choix de Dieu. Elle est le canal par lequel il a décidé d'œuvrer. Seul, on s'essouffle. Ensemble, on va bien plus loin. Il est essentiel de vivre le vertical avec Dieu, mais également l'horizontal avec nos frères et sœurs en Christ. Je nous invite à la prière. Seigneur Jésus, merci pour ta présence au milieu de nous. Merci parce que tu es Dieu Tout-Puissant. Tu es le Créateur de toutes choses. Tu es le Créateur de l'Église. C'est toi qui l'as voulu. Et merci pour chaque personne dans ce lieu, chaque personne qui fait partie de notre chapelle, Seigneur. Merci de nous fortifier, de continuer de cheminer à notre rythme avec nous. Merci de ne pas abandonner, de continuer ton œuvre dans nos vies. Merci pour les transformations que tu nous octroies, pour les fois où tu nous parles, où tu nous transformes. Seigneur, permets-nous de toujours plus grandir dans ta présence avec toi. Aide-nous à entrer dans cette restauration complète que tu aimerais pour cette Église, Seigneur, afin que nous puissions, dans la bonne saison, dans ton temps, Seigneur, pouvoir regarder vers l'extérieur et aller en dehors pour annoncer l'Évangile, pour faire des disciples, pour leur apprendre. Merci, Seigneur, pour cette Église. Merci pour tout ce que tu fais, tout ce que tu as à faire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.